Chers auditeurs de Radio Capi, bonjour et bienvenue dans Capi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Quels sont les préalables à réunir avant de procéder au changement de la Constitution? Nous en parlons avec le professeur Kaloumé Béa Ghislain, il est spécialiste du régionalisme africain. Bonjour et bienvenue professeur. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions par les mêmes numéros, c'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de M. Clément Kayembe, un internaute de Kinshasa. Il nous révèle ceci, la Constitution est un ensemble des règles fondamentales qui régissent l'organisation et le fonctionnement d'un État. Elle détermine également les droits et les obligations des citoyens, les pouvoirs des institutions ainsi que les principes sur lesquels repose la société. Clément de Kinshasa ajoute, quant à la possibilité de modifier ou de réviser cette loi fondamentale, cela est effectivement possible, mais sous certaines conditions. Nous entendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiocapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Gaston Vouezol réalise ces numéros et Alain Goyi est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Quels sont les préalables à réunir avant de procéder au changement de la Constitution? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec le professeur Kaloumé Béa Ghislain. Il est spécialiste du régionalisme africain. À la question de savoir, peut-on réviser la Constitution de la RDC? De nombreux juristes répondront, il faut interroger ces mêmes documents. D'après ces derniers, on peut réviser certaines dispositions constitutionnelles à l'exception de celles qui sont intangibles en vertu de l'article 220. Cependant, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a au cours d'un meeting tenu le 19 novembre dernier sur la place de la Poste à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, renouvelé son intention de changer la constitution de la RDC. Dès 2025, un comité sera mis en place pour travailler sur ces projets, renchérit le chef de l'État. Cette idée divise l'opinion publique sur l'ensemble du territoire national. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une constitution? Est-ce que c'est possible de modifier ou de changer cette loi fondamentale? Et quels sont les préalables à réunir avant de procéder au changement ou de réviser la constitution? Nous en parlons avec notre invité, professeur Sylvain. Rebonjour et bienvenue dans Capi Service. D'entrée de jeu, donnez-nous les aspects définitionnels du concept du vocable constitution.
Merci beaucoup de la parole. Vous devez savoir que c'est de manière classique que la Constitution est définie comme un texte fondamental qui organise le pouvoir, la gestion, les libertés, ainsi de suite. C'est un consensus trouvé, aussi bien dans la doctrine que dans la pratique des États, pour assortir ce texte-là de ces éléments-là. Et lorsque vous avez un texte dans lequel vous retrouvez ces éléments qui organisent le pouvoir, le partage,
La gouvernance,
les provinces, tout ce que vous voulez. Ce texte va être appelé Constitution. Cependant, la Constitution elle seule ne fait pas le droit. La Constitution se trouve dans une hiérarchie des textes, des normes qui soutiennent l'État. Et parmi ces normes, il y a plusieurs, il n'y a pas que la Constitution, mais...
Mais c'est l'instrument juridique fondamental d'une nation.
Non, on dit de la Constitution que c'est un document fondamental parce que, effectivement, ceux qui élaborent la Constitution la mettent dans le cadre interne d'un État. Et on la met au sommet. Alors que l'État lui-même, tel qu'il est constitué, n'est pas gouverné que par les textes internes. C'est l'erreur que nous avons tous commis dans ces pays parce que nous plaçons la Constitution dessus alors qu'elle-même se rapporte à des instruments supérieurs à la Constitution.
Lesquels par exemple?
Les traités internationaux.
Les conventions et traités internationaux.
Effectivement. Ce qui fait que lorsqu'on prend l'État dans sa souveraineté interne et internationale, la Constitution ne peut pas être le texte fondamental parce que c'est le texte qui se conforme à d'autres textes supérieurs. Mais pour le besoin de la souveraineté d'un État, on nous a tous enseigné que ce texte est fondamental, on a exclu la dimension internationale. C'était une erreur. On l'a accepté et nous tendons à corriger ça.
Donc, dans la rédaction d'une constitution, on tient également compte des conventions internationales que le pays a eu à ratifier.
Lorsque vous prenez la constitution de 2006, telle qu'elle est modifiée, dans les préambules, vous allez voir que la constitution intègre en son sein les normes internationales, des UDH, tous les autres instruments. Et pour mieux comprendre l'aspect, c'est lorsqu'il y a divergence entre la constitution et une norme internationale. Lorsque l'État a adhéré, on doit modifier la constitution, c'est des textes faibles. Ce qui veut dire que le fétichisme accordant sa suprématie n'existe que dans les conceptions de ceux qui ont voulu que ce soit un texte supérieur. C'est un texte comme tout autre. Et puis, il y a une doctrine qui existe qui dit que un État peut exister parce qu'il y a un gouvernement effectif. Pas nécessairement parce qu'il y a un pouvoir organisé dans la constitution, non. C'est l'effectivité du pouvoir. Et ça vaut. Et dans la constitution, dans les éléments constitutifs de l'État, on n'a pas mis la constitution. L'État existe dès lors qu'on a ces éléments-là, territoire, gouvernement, population, ainsi de suite. On n'a pas dit, il faut ajouter la constitution. Non. Bon, quand vous avez ces éléments-là constitutifs, avec un chef de l'État qui sait ce qu'il doit faire, il gouverne. Il peut gouverner sans texte, parce qu'il y a d'autres lois. Donc c'est un fétichisme sur lesquels les gens ont fait un compromis. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculations. Parce que ce n'est qu'une loi parmi tant d'autres. Mais on lui accorde une valeur parce que ces textes organisent des pouvoirs. Mais aujourd'hui, ils n'organisent pas le pouvoir par rapport à elles-mêmes. Par rapport également à d'autres instruments internationaux qui s'imposent à elles. Mais il y a toujours cette réticence de croire que c'est les textes les plus importants. Non, c'est un texte comme... Et puis vous allez voir que elle n'est pas vraiment sortie de beaucoup de sanctions, mais elle existe. Vous voyez, un texte de loi doit être assorti des sanctions. Là-bas, il y a des principes généraux, il y a tout ce que vous voulez, et puis on va s'y référer aux lois. Donc même si on n'a pas la constitution, on peut avoir les lois, et puis on va les appliquer, et puis l'État va continuer. Donc c'est en fait ce que je voulais dire sur cet aspect définitionnel et son importance par rapport à la hiérarchie des normes, à la pyramide de Kelsen. Vous allez voir que dans la pyramide de Kelsen, quand on fait la pyramide, là, en forme de triangle comme ça, beaucoup de scientifiques omettent le même triangle au niveau international. Les triangles renversés. Ce qui fera que...
La pyramide inversée.
Ce qui fera que pour que cet État existe, c'est pas par rapport à la Constitution, c'est par rapport à sa reconnaissance à d'autres États.
D'autres États, oui.
La Constitution vient faire quoi? À d'autres nations. La Constitution ne sert que d'un canal. Pas vraiment les textes importants qui font de l'État, non. C'est un peu exagéré, c'est un peu surcoté, comme on l'a dit. Hein, c'est un texte un peu surcoté et puis nous nous sommes accommodés.
Professeur Kaloum, pouvez-vous nous faire un petit rappel historique de tout ce qu'il y a eu comme constitution, élaboration, changement ici en RDC, dès l'indépendance à nos jours? Un petit rappel historique, professeur.
Bon, il faut savoir que il y a cet acte-là que nous avions avant notre indépendance et puis nous avions eu l'indépendance qui a permis que nous soyons un État sur le plan international, parce que vous savez que quand vous faites votre déclaration d'indépendance et qu'aucun État ne prend acte, vous n'êtes pas un État.
Exactement.
Vous n'êtes pas un État. Et après, nous avons essayé de conformer un peu notre arsenal juridique interne avec une constitution de 64, 67, avec toutes les modifications, jusqu'à ce qu'on est arrivé un peu à 97. Et à 97, avec la révolution des Kabila, entre guillemets, bien entendu, hein, entre guillemets, on a eu les décrets-lois de 97, on a eu l'acte constitutionnel de transition de 98, on a la constitution de transition de 2003, et puis on a eu celle de 2006 qui a été modifiée jusqu'à ces jours. Et vous allez savoir que sous Mobutu, la constitution de 67, il y a eu, je crois, on dénombre plus de 20 modifications, sauf erreur, jusqu'à 90, il y a eu 20 modifications. Et c'est comme ça qu'on a dit que Mobutu, c'était un despote. En fait, en réalité, quand on a compris plus tard, c'était pas vraiment un despote, mais c'était que il y avait des problèmes de société qui se posaient. Et pour les résoudre et contenter ses oppositions, il fallait modifier la constitution, accorder à l'opposition ce qu'elle voulait. Donc ça ne faisait pas de lui un despote, mais c'est comme on en a aujourd'hui. On a des problèmes
notamment
de société.
Notamment le libéralisme,
le
multipartisme.
Tous les problèmes, tous ceux qui veulent accéder au pouvoir, tous ceux qui veulent accéder à la majorité, il faut ouvrir des cadres juridiques. Et le cadre juridique passe souvent par la révision constitutionnelle. La révision est prévue dans le texte de constitution.
Et si la révision est prévue dans le dans les textes constitutionnels, est-ce que la loi fondamentale de 2006, vous êtes spécialiste du régionalisme africain, est-ce qu'elle démontrait des limites avec dans les temps?
Bon, vous savez que un texte de loi, quand il est adopté, c'est par rapport aux événements passés. Mmh. Et pour régir l'avenir.
L'avenir.
La question qu'on se pose, est-ce que les générations futures sont tenues par les décisions prises par les générations passées? Il y a ceux qui estiment que pour la stabilité institutionnelle, on devait garder. Il y a ceux qui estiment que pour adapter le texte aux mentalités nouvelles, il faut modifier.
Modifier.
Il faut changer. C'est autour de ces concepts que se posent les débats. Et vous allez constater que notre constitution actuelle pose des principes de révision, mais ne pose pas les principes de changement. Il se pose un problème. Comment changer? J'ai suivi un peu le débat, comme vous le dites. Moi, je pense que dans le contexte actuel de notre constitution, les mécanismes pour le changement de la constitution sont prévus. Mais on ne les trouve pas foncièrement dans la lecture du juridisme de la constitution. On veut voir une disposition qui parle du changement. Ça n'existe pas. Parce que quand on fait un texte, on suppose qu'il est stable, on pense à sa révision.
Et dans ces documents, professeur, il y a également des articles qui sont intangibles, qui sont échangeables.
Non, je ne dis pas le contraire. Mais, dans l'optique où, parce que l'argument est politique, l'argument n'est pas juridique. Ce sont les politiques qui estiment qu'il faille trouver autre chose, ou il faille intégrer autre chose. On les fait comment? Le droit, c'est un système qui trouve des réponses à tout ça. Et vous allez voir que, moi, par exemple, et les points de vue que je donne aujourd'hui, je ne l'ai jamais partagé avec les gens, mais vous avez la primeur. Notre constitution ne doit même pas être révisée, doit être changée. Pourquoi changer? Parce que, dans sa logique historique, elle découle des belligérants, ceux qui se sont partagés les pouvoirs.
Ça a été élaboré dans les contextes
dans de l'après-guerre. Et en 2006, on a voulu un peu aménager les pouvoirs du chef de l'État parce qu'il n'en avait pas assez. La Constitution n'a pas encore atteint sa maturité. Ça peut être possible. Mais les politiques estiment qu'ils peuvent changer. Si on doit changer aujourd'hui, dans l'état actuel de ces textes, il faut deux choses. Premièrement, un référendum sur le changement ou la modification ou la révision. Parce que la question du changement n'est pas prévue dans les textes. Mais la question du changement est prévue dans le droit, dans les systèmes juridiques. Parce qu'il y a ceux qui pensent que pour changer, il faut un soulèvement. Il faut, comme vous êtes
une venu, révolution balayée.
Non, ce n'est pas ça. Le garant de la nation qui veut changer reviendra devant le souverain primaire, le peuple. Parce que dans notre condition également, on fait appel au peuple. C'est ce peuple-là qui est défini à l'article 55 de la Charte des Nations Unies, à qui revient tout le pouvoir de décider, pour lui poser la question. Veux-tu un changement ou une révision?
Une révision.
On commence par là. Premier référendum. Les gens votent changement ou révision. Si on veut maintenant le changement, en plus du résultat du référendum, on va aller vers un deuxième référendum. On amène maintenant le texte,
les documents, les projets.
Le projet de constitution là, on l'amène. Maintenant, si vous êtes d'accord pour cette constitution ou pas.
Mais ça, c'est la population qui va encore lire les
c'est
contenus
le peuple,
ou
c'est,
non, les représentants
de... Maintenant, comme il s'agit de changement, la constitution n'a pas soumis ces processus à la démarche qu'on trouve dans le texte. Comprenez? Il n'y a que le garant de la nation.
Le chef de l'État,
qui peut proposer un changement, mais sous les conditions que moi je donne, c'est un point de vue. Il peut être discutable. Sous les conditions de deux référendums. Le premier va porter sur le choix du changement.
Il faut changer ou modifier.
Ou réviser.
Il faut changer ou réviser.
Oui.
OK.
Si nous votons révision, il passe par la procédure légale, conditionnée qui est prévue.
Parce que ça se passe, ça existe.
Ça existe.
La loi les permet.
La constitution les permet. Okay. Si nous optons pour le changement, il ne va plus passer par là. Il mettra en place ce qu'il a dit, son comité d'experts, de juristes, et puis il va consulter. Parce qu'il faut qu'il consulte. Qu'est-ce que nous voulons, nous les peuples là, les souverains, détenteurs de pouvoir, qu'est-ce que nous voulons? Nous disons ce que nous pensons et on conçoit un texte. Un texte qui sera inclusif. Mais il y aura toujours ceux qui ne voudront pas.
c'est la liberté.
On est en démocratie.
Deuxième référendum, maintenant avec un texte. Des textes corrigés, tout ça.
Bon, les
la nouvelle constitution.
La nouvelle configuration, les nouveaux documents,
rédigés
qu'on va proposer encore au peuple.
En soumet au référendum, cette fois-là, on ne va pas passer par toute la procédure constitutionnelle qu'on a là, l'initiative de ceci. Non, nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'une révision, d'un changement. Et les discours devaient aller vers le changement, pas vers la révision. Mais comme il y a débat, la seule démarche, c'est deux référendums. Le premier, comme je l'ai dit, sur ce qu'on fait. Le deuxième, c'est on opte pour quel texte. Et ça serait, je crois, un débat des sociétés.
Je vous garde ici au studio. Nous allons partir au standard parce que dans cette émission, nous donnons également la parole à la population solitaire qui interviennent, qui appellent de partout. On me signale déjà les premiers solitaires qui sont au standard. Quels sont les préalables à réunir avant de procéder au changement ou à la modification de la Constitution? Nous en parlons dans cette deuxième, dans cette première partie du magazine au Capi Service. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099 706 9 41. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Maître Claude, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, bonjour Okapi Service. Un plaisir d'être invité.
Nous tablons sur les préalables à réunir hein, avant de procéder à la modification ou au changement de la Constitution telle que le souhaitent les chefs de l'État. Comment commentez-vous ces sujets?
Oui, je pense de prime abord que la question, comme l'invité l'a dit, la question est plus spécifique que même directe dans la Constitution à l'article 218 sur ce qui concerne la révision de la Constitution. L'article 218 pose des conditions pour... la révision pose même le préalable pour la révision de la Constitution.
Lesquels?
C'est-à-dire l'initiative peut venir. L'initiative peut venir entièrement du président de la République, du Parlement, ainsi que le Parlement, lorsque je parle du Parlement, Sénat, ainsi que l'Assemblée nationale, ainsi que des 100 000 personnes de la constituant la population congolaise. Et tout se passera toujours au Parlement, mais in fine, tout reviendra au président de la République. Là, c'est en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Donc, je vais un peu paraphraser l'article 218. En ce qui concerne la révision constitutionnelle, cette révision ne va pas à l'entente de l'article 220. C'est-à-dire, la Constitution donne la possibilité de sa révisitation, mais en même temps, elle donne... c'est garde-fou à l'article 220. C'est-à-dire, il y a des notions qu'on appelle verrouillées. Ce sont ces notions-là qui ne peuvent pas être touchées, notamment le mandat, les syndicalismes, ainsi que même le suffrage. Bien que, malheureusement, en 2011, avec la loi constitutionnelle, cette loi, ces notions des verrouillages ont été violées en quelque sorte parce que nous avions quitté du suffrage à un seul tour.
De deux à un tour.
Oui,
en 2011.
À un tour, voilà, début à un tour, voilà, voulais-je dire. Donc là, c'est en ce qui concerne la révision. Mais par rapport au changement de la Constitution, il n'est pas prévu expressis verbis, c'est-à-dire de façon explicite dans la Constitution, mais l'interprétation à faire de l'article 5 de la Constitution qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple congolais, tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection indirectement par ses représentants. C'est-à-dire quoi? Le peuple, dans son pouvoir discrétionnaire, dans son pouvoir exclusif d'acte référendaire, c'est-à-dire le peuple peut avoir une question ou le pouvoir peut proposer au peuple une question sur les changements de la Constitution et cela peut être fait. Et même la loi donne même le modalité d'organisation de ces élections ou de ces référendums. Je pense que en ce qui concerne le changement, il faut la consultation du peuple, selon l'article, les diverses affaires de l'article 5 de la Constitution. Et quant à ce qui concerne la révision de la Constitution, il faut y aller à l'article 218. Voilà ce que je peux donner comme ma contribution par rapport à la question.
Merci beaucoup pour ces compléments d'information, parce que le prof Kaloumé l'a relevé au cours de cette émission. Excellente journée. Nous rappelons que vous intervenez, Maître Claude, depuis la ville de Kinshasa. On reste à Kinshasa pour donner la parole à un autre avocat, Maître Omar. Prenons d'abord Gaston, on va donner la parole à Omar. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati, merci pour la passation. Je pense que les préalables sont aussi constitutionnels en ce qui concerne la révision. Je parle bien de la révision. Premièrement, je pense qu'il faut se rassurer que la personne qui initie la révision est la personne habilitée, ou soit l'organe habilité par la loi pour le faire. Mais il y a aussi la période, on dit que la période doit être propice parce que à certains moments qu'on ne peut pas imaginer une révision constitutionnelle comme la loi le prévoit. Il y a aussi l'objet de la révision qui devrait être pris en compte, parce que vous savez que notre constitution actuelle prévoit certaines dispositions qui ne peuvent subir aucune révision, pour vous rassurer que ces dispositions ne rentrent pas dans l'objet de la révision proposée. Mais aussi les rôles du législateur et du peuple dans la révision constitutionnelle qui sont prévus dans notre constitution sont là les préalables qu'on devrait tenir compte. Mais je trouve mal, et je pense que l'invité qui est là n'a pas raison de dire que le président peut autoriser ou peut convoquer un référendum pour demander au peuple de dire oui ou non au changement de constitution. Le cas échéant, si c'est oui, proposer une révision à une constitution qui devrait être adoptée dans le cas d'espèce. Je pense que cet argument-là va en dehors des dispositions qui nous régissent, parce qu'aucun texte ne prévoit là pour cette possibilité-là. Et permettre au président de le faire, ce serait vraiment une anarchie. Mais je voulais aussi dire une chose par rapport à notre constitution actuelle. Vous savez, nous tous, nous sommes passés à l'université, et nous comparons des constitutions du monde. Nous lisons, moi personnellement, j'ai lu plusieurs constitutions du monde. Je vous mens pas, ce n'est pas utile aujourd'hui de dire que cette constitution émane d'une situation de conflit que nous connaissons à San City. Avoir l'organisation du pouvoir, la manière dont être organisé dans notre constitution, mais aussi les différents droits fondamentaux qui sont prévus. Cette constitution, moi, je ne refuse pas qu'on puisse la réviser, mais penser à la changer, c'est vraiment viser les dispositions qui sont intangibles.
Gaston, donc, à vous comprendre, il y a des articles qui figurent, des articles qu'on retrouve dans la constitution de la RDC qui se recoupent avec les articles de la constitution des autres nations, c'est ça?
Non, mon cher, vous savez que la plupart des constitutions des Africains, ce sont des constitutions copiées, ce sont des constitutions européennes. Je vous donne l'exemple, les régimes politiques que nous avons, c'est nous qui l'avons inventé. Oui. Et ces régimes démocratiques se trouvent dans la majorité des constitutions du pays. Peut-être ce qu'on peut dire, vous savez, notre système qu'on a créé, c'est un système qui, depuis le président de tel pouvoir, c'est un système qui accorde la gestion du pays à un gouvernement qui fait partie de l'exécutif. Et ce gouvernement est responsable devant l'Assemblée du peuple. Le président n'étant pas responsable devant l'Assemblée, il a certains pouvoirs qui sont un peu limités au niveau des nominations, comme les conditions de la diplomatie, au niveau de la politique étrangère, des trucs comme ça. Mais dans la pratique, à mon avis, c'est ce qu'il fallait changer, à mon avis. La réalité que nous vivons, c'est on constate qu'un président, dans les faits, est plus fort qu'un gouvernement. Que tout ce que le gouvernement fait peut être imputé au président, et pourtant, le président n'est pas responsable devant le gouvernement. C'est plutôt le gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée. Et cette Assemblée, nous sentons que ça ne fait rien en face de ces gouvernement qui est une étiquette. C'est pour ça la réalité, voudrait qu'on puisse changer le régime. C'est un régime où on a un président fort et on a un gouvernement en réalité. Un président fort, s'il faut voir les choses dans le sens-là, il faut aussi toucher l'article 20. Alors, je refuse aussi que si on veut garder cet article 20, qu'on ne puisse pas permettre au président ou au gouvernement de ne rien faire et laisser tout au rang de la présidence. Et surtout aussi, faire que l'Assemblée puisse, le Parlement puisse réellement faire son travail. C'est peut-être les réalités que nous vivons, que nous ne comprenons pas, mais dans le sens textuel du terme, nous avons une constitution qui a une architecture organisationnelle que moi je qualifie pas moins parfait, hein. Mais s'il y a des choses qu'on veut réviser, qu'on nous dise clairement ce qui propose cette révision, quelles sont les dispositions qui pêchent dans les cas d'espèce, qu'on peut mettre hors d'état de nuire au lieu de nous imaginer une révision ou même comme si on va amener une constitution qui n'a existé qu'en RDC. Non, la RDC copie des constitutions de l'étranger, étant donné que nous sommes un pays d'ailleurs colonisé, un pays légué par les colons, et puis surtout qu'aucune constitution au monde qui tire son origine dans les tiers mondes ou en Afrique. Donc cessez de nous dire que c'est une constitution étrangère, des trucs comme ça. Et surtout aussi qu'on avait adopté, on avait voté par référendum cette constitution. Quelle soit son origine, c'est une constitution qui, même là, c'est qu'on nous propose là, j'imagine qu'il y aura des étrangers qui vont, que la commission, soit disant la commission, il y aura des étrangers qui vont participer à sa rédaction. Mais je pense qu'il n'y aura pas assez d'innovation si ce ne sont pas certaines choses qu'on va modifier visant. Et moi, je veux qu'on rentre dans la logique de la révision constitutionnelle, parce que là, tout est clair, comme j'ai
dit au préalable. Merci beaucoup, Maître Gaston, pour tes suggestions, voilà, parce que l'invité l'a relevé également. Hein. Il a relevé que toute constitution s'inspire des conventions internationales, donc il y a des aspects qui se recoupent dans les contenus des constitutions de presque toutes les nations. Excellente journée. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Et Maître Omar, il est également au standard. Il intervient depuis la ville de Kine. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service, Maître. Maître Omar, est-ce qu'il est là? Maître Omar, on vous donne la parole. Malheureusement, le temps de relancer Maître Omar. Professeur, comment répondez-vous à nos deux intervenants?
Non, vous voyez, les gens mettent trop d'émotions dans certains débats. La révision n'a pas de problème. Le changement n'a pas non plus de problème. On peut changer une constitution. Si on fait un débat d'idées, on va se comprendre. Si on fait un débat calqué sur l'auteur du message de Kisangani et des préjugés, on pose un problème.
Oui.
J'ai commencé par dire que les préalables que les gens disent comme préalables, ce ne sont pas des préalables en principe, c'est la procédure. Les préalables sont les conditions qui sont arrivées à l'État après la mise en œuvre de la constitution. On a des réalités sociologiques, politiques, qui ne sont pas nécessairement prises en compte dans les textes, qu'il faudrait adapter.
Oui, professeur, qui c'est? Maître Gaston, il a dit.
Effectivement, Maître Gaston l'a dit. Maître Claude l'a dit. Maître Gaston a donné les préalables.
Gaston plutôt a dit. Il a dit les contenus de cette constitution. Oui. Ça n'a rien à voir avec les contextes.
C'est pour ça que.
Ça nécessite un changement.
Non, ça nécessite un changement. Parce que moi, par exemple, je suis d'accord qu'on est vers un régime présidentiel. Tout simplement. Pourquoi? Parce que on a un chef de l'État qui n'engage pas sa responsabilité, or les gens le voient lui. On dit c'est le Parlement et c'est le gouvernement. Laissons cette histoire. Monsieur, tu gagnes les élections, travaille pour nous, qu'on t'écoute. Qu'on vienne pas nous dire non, pas moi, le gouvernement. Ça, c'est une fois des responsabilités. C'est pour ça qu'on doit changer les régimes politiques, la forme du gouvernement. On doit changer toutes ces choses-là. Mais on ne peut pas changer par une révision. Il faut qu'on aille vers un changement. Parce que par la révision, il y a des dispositions qu'on ne pourra pas changer. Les gens ont peur que certains s'éternisent au pouvoir. On peut trouver un consensus politique. La question est politique, elle n'est pas fondamentalement juridique.
Ouais.
On peut dire que l'auteur du message qui a voulu changement, tu ne vas plus te représenter. Ni toi, ni ton prédécesseur. Vous êtes des sénateurs à vie. C'est fini pour vous.
Ouais.
Pour nous qui venons, nous voulons ceci. On fait une nouvelle constitution. Il n'y a pas de problème, c'est la vitalité démocratique. Ici, on n'a pas à dire qui a raison, qui a tort. Moi, j'ai fait une contribution. Je dis que, comme la constitution n'a pas prévu les changements, il faut double référendum. C'est une nouvelle idée. Qui arrive? Je n'ai jamais parlé de ça. Hein. Je garde pour moi. J'ai dit, il faut deux référendums.
Les premiers, on se demande
vous changement qu'on change ou pas. Révision.
Vous voulez qu'on change ou qu'on révise?
On révise. Ok, on fait ça. Si on opte pour la révision, on va en cellule, on dit, mais on révise quoi?
Le texte est là.
On
la
prépare un texte.
Là, qu'est-ce qu'on change?
On fait la comment est-ce qu'on appelle ça? La vulgarisation et les
du contenu du
texte à réviser. Si on veut le changement, on fait la même chose. C'est l'État qui, c'est le pouvoir, c'est l'État. L'État peut trouver ce qui est bon pour nous et il organise et il appelle tout le monde. Mais dans le cadre d'un consensus de l'État.
Professeur, les auditeurs sont revenus. Maître Omar, on me signale qu'il est de nouveau en ligne, donc on lui donne la parole. On va retourner au studio. Maître Omar, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, monsieur Tati. Maintenant, vous m'écoutez.
Nous vous recevons 5 sur 5. Hein. La liaison a été altérée lorsqu'on vous donne la parole précédemment. Allez-y.
Merci beaucoup, monsieur Tati, du Verbe et Couvement du Dieu. Je salue le professeur Kaloumé, un de nos maîtres qui nous a formés à l'UNIKIN. Je les salue.
Merci beaucoup.
Alors, par
merci
rapport à la problématique et à la thématique actuelle, je voudrais réagir par rapport à la proposition du professeur sur le régime présidentiel. C'est une bonne proposition, mais ne pensez-vous pas qu'au regard des réalités africaines, que cela pourrait aboutir au présidentialisme, un président qui se confond à Dieu et qui fait tout? Ne pensez-vous pas d'abord qu'il faut commencer par changer les mentalités africaines avant de proposer un tel régime? Si les États-Unis l'appliquent, c'est parce qu'ils sont cultivés. Alors, par rapport au débat où le professeur, vous étiez à l'époque assistant du professeur Bazoué, Babouka a dit que je sais de reste mémoire. Lui nous a dit que la Constitution est la loi suprême d'un État. Vous étiez assis comme son assistant, aujourd'hui vous êtes professeur. Contredisez-vous ce qu'il a dit à l'époque parce que vous affirmez ici que pour vous, la Constitution n'est pas la loi suprême. J'ai beaucoup de respect pour vous et je l'aurai toujours, mais puisque nous sommes un État de droit, la pensée est libre. Moi je pense, contrairement au professeur, que la Constitution demeure la loi suprême. Pour deux raisons. La première, c'est elle qui fixe les cadres généraux qui réglementent tout l'État. La deuxième raison est philosophique et scientifique. Pour qu'un traité international puisse être adopté dans un État, pour qu'on puisse l'adhérer, cette adhésion doit répondre à deux conditions. La première, ce traité doit être conforme à l'ordre public interne. On ne peut pas aller adopter un traité qui prône l'homosexualité, par exemple. Donc, c'est la Constitution qui fixe l'ordre public interne auquel on doit se référer pour adhérer. Deuxième chose, ces traités doivent être conformes aux us et coutumes du pays auquel on veut adhérer. Donc, ce faisant, je pense que ça demeure la loi suprême. Voilà pourquoi l'article 216 de notre loi fondamentale est clair. Il donne la possibilité à la Cour constitutionnelle de déclarer une clause internationale inconstitutionnelle. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas révision, ce traité ne sera jamais en vigueur chez nous. Donc, au regard de ces aspects juridiques et philosophiques, je pense que la Constitution est la loi suprême d'un État. Les termes international ne veut pas dire suprême, ça veut seulement dire ensemble des deux ou plusieurs États. Par rapport au débat au lieu sur la révision, comme l'a dit le professeur, la révision est une possibilité permise. Mais au-delà de la condition de forme que l'un de mes prédécesseurs a fixée sur l'initiative, il y a deux autres conditions qu'on néglige. Avant de réviser, il faut démontrer l'opportunité qui s'apprécie par rapport aux besoins vitaux de la nation. Est-ce qu'il est opportun en ces jours de réviser? Voilà pourquoi à l'époque, nous avons fustigé la révision de 2011. C'est vrai, la procédure est prévue, le président peut initier les parlements, tout est là, il y a des dispositions qu'on ne touche pas, mais au-delà de la procédure, est-ce qu'il y a opportunité? C'est là que nous pensons non, parce que l'opportunité s'apprécie par rapport aux besoins vitaux de la nation. Le peuple veut la nourriture, le peuple veut l'emploi, vous lui proposez une nouvelle constitution, ce n'est pas une opportunité. Deuxième chose, il faut la volonté populaire. La loi est l'expression de la volonté populaire. Cette volonté, on doit la calquer, on doit l'étudier sur terrain. À ce jour, 80% des Congolais ne sont pas d'accord. Par rapport au changement, parce qu'il faut faire la différence entre révision qui suppose la modification partielle de certaines dispositions et les changements qui veulent qu'on mette en place une nouvelle constitution qui peut entraîner une nouvelle république. La loi n'a rien dit de manière expresse. Mais il y a des principes généraux de droit qui existent. Ce qui n'est pas interdit est permis. Puisqu'aucune disposition de la Constitution n'interdit les changements, donc on peut changer. Il y a un autre principe, la loi du peuple ou l'intérêt du peuple est la loi suprême. C'est en ce sens qu'on peut changer. Mais par rapport aux conditions des changements, il y a des faits majeurs, mais monsieur Tati, il faut premièrement qu'il y ait rupture culturelle. On doit constater de manière formelle que les anciennes habitudes ne sont plus en adaptation avec les réalités actuelles. Donc il faut adapter les textes fondamentaux aux réalités. Qu'on nous dise aujourd'hui quelles sont les habitudes anciennes qui froissent, qui ne riment pas, qui énervent le contexte actuel. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un événement exceptionnel comme un coup d'État. Aujourd'hui au Gabon, si on change, c'est parce qu'il y a un coup d'État, les choses ont changé. Trois, il faut qu'il y ait une pression populaire de taille. En réalité, moi, ces trois conditions ne sont pas réunies On ne peut pas parler du changement de la Constitution, à moins que la politique, comme l'a toujours dominé le droit, puisse le faire. Voilà ma petite contribution. J'adhère totalement à toutes les idées du professeur, mais je pense, à mon avis, il n'y a ni opportunité, il n'y a ni volonté populaire, il n'y a ni nouvelle circonstance exceptionnelle qui peut nous amener au changement ou à la révision à ces jours. Voilà ma petite contribution. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Omar, pour tes suggestions. Excellente journée. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Professeur Kaloumé aura le temps de répondre à tes préoccupations également, parce qu'il y en a eu. On part cette fois-ci à Bounia pour donner la parole à Justin. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, Monsieur Tati. Bonjour à mon prédécesseur, Maître Omar, et aussi au professeur Kaloumé.
Nous vous donnons la parole, allez-y.
Merci, Monsieur Tati, en tout cas pour l'opportunité. Nous regrettons les politiciens congolais, comment la même constitution qu'on aurait prêté serment, des fois, qui peut aujourd'hui avoir des lacunes, Monsieur Tati. La question que tout le monde se pose, la révision ou le changement de la constitution, ce n'est pas une priorité. Est-ce que vraiment c'est une priorité pour les Congolais? Si oui, est-ce que c'est la constitution qui empêche le président Tshisekedi à mettre fin aux atrocités dans les pays, Monsieur Tati? Le professeur, je pense que le professeur Kaloumé va répondre à cette question. Et la deuxième question, est-ce que la constitution qui empêche, bien évidemment, le président Tshisekedi a développé le pays?
Non, c'est
regardez
plutôt
aujourd'hui l'insécurité.
Le prof l'a relevé. Justin,
les villes de la RDC.
Oui, prof Kaloumé l'a Justin, prof Kaloumé l'a relevé. Il a dit c'est dans la mode de gouvernance, au fait. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu fais comme allusion. Allez-y.
Nous devons, monsieur Tati, bien évidemment, voyez tout ce que Maître Omar a dit, ouais. Est-ce que vraiment dans ces pays nous avons la volonté politique, ouais, ou bien chacun fait seulement pour tirer les rideaux de ce comté? Voyez la misère, voyez tous les 6 programmes que le président aurait donné ou proposé. Qu'est-ce qui est fait, Monsieur Tati? Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas le courant dans toutes les villes, l'insécurité partout. Est-ce que vraiment cette révision, c'est la révision qui peut enlever tous ces équivoques qui a fait que le pays décolle? Alors, toutes les hypothèses, nous ne connaissons pas où va la République démocratique du Congo. Où est-ce que nous sommes dans une dictature? C'est une question que aussi les gens se posent, alors que c'est la même constitution que le président Tshisekedi aurait prêté serment. Il va respecter la constitution de la... Mon frère, alors que nous nous étonnons que c'est une constitution qui a été conçue à l'étranger par les étrangers, ça nous inquiète et nous ne voyons pas en tout cas une bonne volonté du président Tshisekedi, parce que nous en avons mal.
Donc d'après vous, Justin, ce n'est pas opportun, c'est pas important, il y a d'autres priorités, hein, c'est pas important de changer ou de modifier la loi fondamentale.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous intervenez depuis...
C'est pas une priorité actuellement.
Merci beaucoup. C'est votre avis. Hein. On respecte votre opinion. Excellente journée au niveau de la ville de Bounia. Professeur, nous retournons ici au studio. Comment répondez-vous aux différents commentaires des auditeurs?
Je suis d'abord heureux de retrouver un ancien étudiant, Maître Omar, aujourd'hui confrère avocat, qui a bien lu Basseba Boukazad, effectivement. Je crois que... Il s'est limité peut-être à la première phrase. Basseba va ajouter que quand on a frappé Laurent Gbagbo, quand on a frappé Kadhafi, c'est pas la constitution qui l'avait sauvé. On lui a appliqué le droit international. Oui. C'est comme ça qu'il disait que ce n'est pas un texte important. Mais on l'appelle suprême parce qu'il organise quand même le pouvoir chez
nous. Au niveau de la nation.
On lui a appliqué un droit qui est international et on l'a bombardé, puis on l'a arrêté, puis on l'a tué. Quand on a frappé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la condition qui a sauvegardé le président.
Non.
Qui l'a sauvé.
Non.
Et on l'a pris. Il est allé faire la prison. Tout un président qui est protégé par une condition, ce n'est pas la condition qui protège. Ce n'est pas un texte qu'on doit magnifier à longueur de journée. Basse l'avait aussi dit. Effectivement, Basse est son maître, c'est mon maître d'heureuse mémoire. Je suis d'accord sur certaines choses qu'il a dit, mais pour la constitution, comme je l'ai dit, quand on la remet dans l'arsenal juridique, ce n'est pas un texte, ce n'est pas le plus important. C'est un texte qui organise les pouvoirs, mais qu'on peut s'en passer.
Oui, beaucoup de problèmes. Maître Omar est revenu sur l'opportunité de ces changements.
L'opportunité. Justement, les questions d'opportunité, des volontés populaires s'examinent à travers un référendum. On ne peut pas sonder le peuple pour dire que moi j'ai quantifié le nombre et j'ai dit le peuple n'est pas d'accord. Non. Et pour toutes les questions intéressant le peuple, le droit, il a bien dit quelque part que il n'y a pas que la constitution, il y a aussi les principes généraux, tout ça, le droit. Effectivement, moi d'ailleurs je ne me suis même pas allé dans les principes généraux. Je suis allé dans les normes qui prévoient qu'on puisse retourner vers le peuple par référendum.
Consulter la population par référendum.
Effectivement, l'article 5, là, c'est les détenteurs du pouvoir suprême par référendum. D'où les chefs de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement, peut communiquer avec le peuple directement par référendum pour les changements. Parce que les changements n'ont pas de processus écrit. Et certaines personnes disent qu'il faut un coup d'État. Non, pas nécessairement un coup d'État. Pas une révolution, mais un processus démocratique, c'est-à-dire référendum. On soumet la question au référendum. J'ai dit, il faut deux référendums. Comme on doute de la légalité du changement, qu'on se mette la question au peuple pour qu'il puisse dire si vous voulez du changement ou de la révision. Et après, on va déterminer les matières. Ça, c'est politique. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, Maître Otmer peut se tranquilliser. Quant à M. Tati, moi, je ne suis pas le chef de l'État. Je ne peux pas répondre à s'il a développé ou pas. Je réponds à une question de méthode.
Et des principes.
Et des principes sur lesquels nous pouvons avancer, c'est notre République. Et comme je l'ai dit, moi personnellement, je suis d'accord que nous ayons un parlement de 145 personnes, député par territoire. On a les 145 territoires. On peut avoir un territoire.
Représentant par
on a 145 par personnes, oui. On baisse le budget de l'État, on affecte à d'autres services. Mais vous imaginez, on paye 500, 620 personnes. Avec les assistants, avec les fonctionnaires, tout ça. On dépense beaucoup d'argent pour une assemblée dont les résultats ne sont pas très palpables. On peut réduire. C'est un débat de société. On peut avoir 26 provinces, 26 sénateurs, 120 députés. Ça va. Et on va réduire les trains de vie des institutions. On a un régime présidentiel où les chefs d'État mettent son gouvernement avec 20 personnes. Ça va. Au lieu d'avoir des gouvernements de 45, 50
et
personnes.
Fantesque, oui.
Et on ne sent pas que ces gens-là sont
efficaces sur terrain.
On doit charger le chef de l'État qui donne une sortie. Si vous pensez qu'il faut que le chef de l'État ne se représente pas, dans les commissions, on décide de ça. Que vous avez fait vos mandats, ne revenez plus. Ce sont des débats de société. On ne doit pas avoir peur du débat. On doit discuter. Mais sur le plan du droit, sans des référendums, on ne peut pas faire des changements. Avec un référendum, ou avec, si ce ne sont pas des matières importantes, on passe par l'Assemblée, on fait la révision. Ça, ce n'est pas un problème. Mais pour les grandes questions qui vont engager la nation dans 20, 25, 30 ans, il faut ces doubles référendums qui peuvent nous permettre d'alléger un peu les fardeaux du contribuable. Nous payons l'impôt.
Oui.
Est-ce que nous sentons que nous payons l'impôt dans cette ville de Kinshasa?
Non.
Une consoeur a été tuée, c'est une petite soeur que moi j'ai connue. Diane, c'est l'insécurité, tout près de son boulot. Vous imaginez? On peut réduire le niveau d'institution et accroître les moyens de la police, accroître. Ici, ça ne peut venir que par des réformes. En commençant par quoi? Par les textes fondamentaux. C'est possible. Nous sommes une jeune démocratie. Qu'on ne compare pas aux États-Unis. Qu'on ne compare pas à la France, des vieilles démocraties. Nous avons évité nos propres réformes africaines pour aller vers les réformes occidentales.
Alors que nous avons nos us et coutumes à nous.
Nous pourrions, nos valeurs à nous. Vous allez voir
nos valeurs sociales.
Dans la doctrine africaine, il y a des États qui recherchent l'État. Vous imaginez? Un État qui recherche l'État. Et il copie les modèles occidentaux. Quand nous copions ce modèle occidental, assumons-nous avec les principes fixés par eux. Un mandat, une fois renouvelable, tu pars. On appelle ça les triangles du pouvoir. Tu ne peux pas aller dans un mandat sans passer par l'administration pour apprendre à écrire. Il y a des excellences qui ne savent pas écrire.
Vous apprenez
à écrire, vous allez dans la politique. Quand vous finissez, vous sortez, vous allez faire les affaires. C'est fini. Mais nous, ici, on a quelqu'un qui est dans les institutions, il est dans les affaires, il est dans ceci, tout ça. C'est incompatible.
Non.
Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Donc tout ça, on peut améliorer avec un bon texte. Et comme je l'ai dit, moi je suis d'avis sur le changement, pas la révision des choses.
Oui, mais il y a un auditeur qui a relevé, professeur, que les problèmes ne se posent pas au niveau du texte, les problèmes se posent au niveau du respect du contenu de ces textes, de l'esprit dans lequel ces textes ont été élaborés.
Vous voyez le premier texte là, de 2006. Quand vous le lisez à tête un peu froide,
de manière dépassionnée.
Vous allez voir qu'il a été fait sur mesure. On baisse tel âge, on fait ceci, on accorde tel avantage. Vous savez, c'était fait sur mesure. Les chefs de l'État, nous avons l'avantage, c'est que Il doit nous promettre de ne pas nous représenter, de ne pas se représenter, de ne pas vouloir un troisième mandat.
À l'expiration de son mandat, c'est un deuxième et dernier mandat.
Et nous faire un texte impersonnel. Comme il a dit, j'ai suivi quelque part, il a dit, pour ceux qui viendront après, je ne sais pas si dans quelle ville, hein, je ne sais pas si c'était où. Il a dit, pour ceux qui viendront après nous, ils peuvent trouver un texte commode.
Et c'était académique, c'était académique.
Je crois, peut-être c'était là. Sur ces entrefaites-là, il peut avoir raison. Que moi, j'ai eu des situations difficiles, j'avais composé avec une majorité qui n'était pas la mienne, il fallait faire des concessions. Vous voyez que Trump n'a pas encore commencé, mais il nomme déjà ses ministres. Dès qu'on arrive le...
On rentre aux affaires, avant les jours là, déjà, il faut commencer.
Il prend des décrets. Vous allez voir qu'il va prêter seulement les mêmes jours, il va prendre des décrets. Il sort.
Il a déjà son équipe et puis il commence à travailler.
Il a nommé, il fait ceci, il prend des dispositions de son... C'est qu'il avait pendant la campagne, de fait. Nous, ici, on a eu un chef de l'État qui a donné un programme. Quand il gagne les élections, il passe par un 100 jours. Et 100 jours a pris presque tous les mandats. Et ça l'a compliqué la vie. Il peut peut-être vouloir que celui qui vient après moi ne tombe pas dans ces pièges de cette constitution. Il faut qu'il ait une majorité. On ne peut pas avoir peur. Il y a un ami qui a dit qu'on peut virer vers le présidentialisme. C'est seulement celui qui a une despote qui va aller vers là. Parce que le pouvoir use. On peut pas être au pouvoir pendant 10 ans et rajeunir. C'est pas normal. Le pouvoir use, c'est un grand boulot. Vous imaginez que vous ne savez plus aller en boîte, vous ne savez plus aller partout, par-ci, par-là. Si vous vous déplacez, il faut la sécurité, ça vous chauffe. Comment vous voulez rester dans ces conditions-là pendant 20 ans?
Éternellement.
Ça n'a pas de sens. Travaillez, reposez-vous, vous avez un peu d'argent, faites l'ambiance, allez dans des plages, amusez-vous, allez au stade, regardez les matchs. C'est ça la vie après le mandat. Et je crois que cette génération a atteint ce niveau de culture, de laisser et partir. Si tout le monde sait que c'est un mandat public, je dois laisser, on n'a pas un problème de texte. Mais le texte aujourd'hui, on ne doit pas le calquer sur l'individu, excusez-moi de citer le nom, M. Tshisekedi, on ne doit pas le calquer sur lui. Et lui aussi doit nous donner les gages que
il doit être partir. Impersonnel.
Impersonnel. On ne doit pas viser. On voit les textes de 2006. Il y a beaucoup de réglages. Il y a beaucoup de réglages, effectivement, comme les poursuites contre les présidents et les premiers ministres.
Oui, mais
c'était des réglages.
Professeur, rien ne prouve aussi que cette fois-ci, si on arrivait à changer ces documents, qu'il n'y aura pas aussi.
Non, en politique, prouve, dans la vie de la nation, le droit, le peuple a le droit de se tromper. Ça fait partie du droit des peuples à l'autodétermination.
Il a aussi le droit de rectifier.
De rectifier. Quand nous nous sommes trompés, nous changeons. C'est nous, c'est les peuples. D'où le seul procédé par lequel le peuple doit s'exprimer, c'est le référendum. Pour le cas d'espèce, double référendum. D'abord sur la méthode, ensuite sur les textes.
Mais en même temps aussi, pour y arriver, il faut qu'il y ait un consensus sur la classe, auprès de la classe politique.
Consensus, le chef de l'État peut engager des consultations. C'est dans ses prérogatives en tant que... Le chef de l'État, Kabila, avait engagé des consultations.
Oui.
Le chef d'État, c'est qu'il a consulté. À un moment, quand il a fait son discours de 6 minutes, il a consulté. Et puis personne ne peut refuser à le consulter du chef de l'État. C'est pour notre pays. Lui va partir.
Professeur, on retourne au standard, hein, pour donner la parole aux deux derniers intervenants.
Okay.
Justin Koulou, vous êtes à Fungurume, bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Les temps se gagnent vite, on vous donne la parole. Hein. En une minute, comment commentez-vous ce sujet?
Merci, M. Tati Mapoukou. Je suis très gai et très content de m'accorder la parole. Quand je suis venu près de ce cerf, aucune personne a touché que la Constitution est intouchable. Tout le monde voit des erreurs qui sont dans la Constitution. C'est seulement la période qui fait défaut de revenir sur cette question. Et tout le monde a passé encore sur les dos du cuillère avec leurs commentaires. Et certains, ils ont commencé à afficher leurs tendances politiques.
Leurs émotions et tendances politiques. OK.
Oui. Ce que nous devons voir, c'est l'idée cachée derrière de sur tout un chacun qui cherche la révision et qui refuse la révision, ou soit le changement. Ceux qui sont au pouvoir cherchent à s'accaparer et traîner au pouvoir le plus longtemps possible, selon la définition des partis politiques. Ceux qui les opposants aussi, ceux qui refusent de ne pas toucher la Constitution, ils veulent au moins changer rapidement la Constitution. Mais tous ces deux trouvent leur justification dans la Constitution, c'est là où nous sommes en train de quoi.
Oui,
de
ben, noyer, Justin, le prof Kaloum a dit, il a relevé, il a dit, le législateur, par exemple, peut dire que la personne qui a, ou le chef de l'État, comme c'est lui qui a initié les projets, ils peuvent mettre une disposition, ne lui permettant pas de briguer un troisième mandat. Ça peut être signifié clairement dans le document. Si.
Celle qui vient de terminer avec son intervention là de dire que le président de la République a émis ses pensées pour ne pas laisser à celui qui viendra après de tomber dans le même piège. Mmh. Mais nous, les intervenants, nous commençons à juger déjà que le président cherche à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'est là où il y a le problème. Mmh. On ne juge pas les textes, mais on juge les tendances cachées derrière les raisonnements de tout un chacun. Les opposants cherchent à couper le mandat plus rapidement. Mm. Les tenanciers du pouvoir cherchent à élastifier le... C'est là où le problème. Le texte, là, c'est cacher seulement nos idées. Voilons les faces. Allons à l'intérieur du couillère. C'est ça. À l'écart des textes, il y a ceux qui cherchent à couper le mandat du président plus vite que possible. Et ceux qui sont pour autre pouvoir cherchent à garder le pouvoir le plus longtemps possible. C'est ça le débat. Point est prêt, M. Tati. Je t'aime beaucoup, merci.
Merci beaucoup, Justin Koulou. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kolwezi que Funguru, que vous intervenez. Malheureusement, on ne saura pas donner la parole à Elvis parce que le temps est parti à la tranche et en train de finir. Professeur, commentez-vous, réagissez-vous à l'avis de Justin Koulou de Funguru?
Non, M. Justin Koulou, je crois que la Constitution aujourd'hui, comme l'avait relevé les premiers intervenants, a donné beaucoup de droits au peuple et à la population. Nous pouvons faire barrage à quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir. Je crois que ce genre de dispositions vont toujours revenir. Mmh. Même si c'est le président...
Même s'il y a les intentions cachées...
Même si le président veut se maintenir à travers les mécanismes qu'on se pour tout rabattre à zéro. Dès quand on rabat à zéro, c'est pour tout le monde, même pour Kabila, même pour qui que ce soit, de revenir.
Oui.
C'est un jeu démocratique. Mais exactement. Nous, nous pouvons empêcher que les deux reviennent. Nous voulons le changement, mais vous n'allez plus revenir. Vous allez garder votre statut de sénateur à vie, c'est fini. C'est notre droit. Le peuple a le droit de s'autodéterminer. Ce qui est bon, dans les débats des sociétés, on ne juge pas les intentions. On doit juger les actes. Parce qu'on peut faire un faux procès. Un procès d'intention, évidemment. Mmh. Moi, je crois que tout le monde doit être serein. C'est un débat. Le débat est éminemment politique, il faut trouver un ancrage juridique. Aujourd'hui, avec cette émission, l'ancrage juridique commence à se percevoir très clairement comment on va procéder.
Et merci de rappeler le principe parce qu'on est déjà à la fin.
Non,
de la
j'ai dit qu'il faut, comme il ne s'agit pas d'une révision, d'un changement pour lequel moi j'opte, il faut impérativement un double référendum. Un premier, puis un deuxième. Un premier sur le changement ou la révision.
On demande à la population.
À la population. Au peuple.
Vous voulez le changement ou la révision?
Ou la révision. Le peuple répond. Et puis on revient pour les textes. Mais là, le chef d'État aura consulté toutes les couches sociales et sortir un consensus sociétal entre toutes les parties prenantes. C'est possible. Il n'y a rien à cacher.
Merci beaucoup, professeur Kaloumé, Béa Gislain. Nous rappelons que vous êtes spécialiste du régionalisme africain. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous au Capi Service. Un dernier mot rapidement.
Non, je voudrais juste faire un coup d'œil particulier à un ami spécial. C'est mon ami Isaac Jean-Claude Chulumba Imoussaou. C'est vraiment un ami particulier sur lequel nous avons discuté de ces choses un peu plus longtemps. Et puis, je crois que nous sommes dans la bonne vision.
Et là, on a éclaté le sujet à travers effectivement, la République.
Effectivement,
la République.
Effectivement, je crois que avec votre ancrage, les gens ont entendu, les débats vont s'ouvrir et puis reste. Je suis toujours disponible. Hein. Je ne discute pas trop souvent politique. Hein. Moi, j'écris mes livres et puis j'enseigne. Et puis je suis
merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Excellente journée. Espérons que ce n'est pas la dernière fois.
Merci.